Bonjour à tous, mon nom est José et nous sommes ensemble pour un cours en ligne sur le développement et le déploiement d'applications Java EE7 sur Microsoft Azure en mode plateforme as a service, c'est-à-dire en mode PaaS. Mon nom est José, je suis architecte et formateur pour la société SOAT, que vous pouvez retrouver sur www.soat.fr. Je suis également consultant depuis une vingtaine d'années et maître de conférence à l'Université Paris 13 depuis 1998. Je suis également développeur open source en Java. Je contribue à différents projets open source Java. Je prends la parole régulièrement dans des conférences telles que Java One ou DevOps en Belgique, en France, à Londres. Je suis également membre du Java Community Process, JCP, et précisément membre de l'Expert Group 365 sur CDI 2.0. Je m'occupe également du Paris Java User Group, qui réunit chaque mois environ 200 aficionados de la plateforme Java. Je suis en fait le trésorier de cette association 1901. J'ai également participé pendant 3 ans à l'organisation de DevOps France que j'ai contribué à fonder. Et enfin, vous pouvez me retrouver sur blog.pomard.org, blog sur lequel essentiellement je publie mon cours en ligne et les différentes conférences que je donne ici et là. Quel est l'objet de ce cours? L'objet de ce cours est en fait double. Il est premièrement de présenter dans ses grandes lignes la plateforme Java EE7, son développement, le déploiement d'applications Java EE7, et plus particulièrement de déployer une telle application dans Microsoft Azure en mode PaaS. Dans un premier temps, nous allons développer et déployer une application Java EE7 simple. L'objectif n'est pas de se plonger dans les détails de l'intégralité de la plateforme Java EE7, mais plutôt d'en présenter les grandes lignes JPA, EJB, JAX-RS pour les services REST, JSF pour les interfaces web. Et nous allons déployer cette application Java EE7 dans Microsoft Azure en mode PaaS. Ce choix peut paraître un peu curieux et nous allons également le justifier dans cette introduction. Quel est l'intérêt de ce cours en ligne? Qu'y a-t-il d'intéressant à examiner cette double problématique de développement d'applications Java EE et de déploiement dans Microsoft Azure? Que va-t-on étudier dans ce cours précisément? Quels aspects de Java EE et quels aspects d'Azure? À qui ce cours s'adresse-t-il? Voilà les 3 questions auxquelles je voudrais répondre dans cette introduction, de façon à ce que vous sachiez exactement où je vous emmène dès à présent. Tout d'abord, déployer une application Java EE7 dans Microsoft Azure, pourquoi est-ce intéressant? Pourquoi est-il intéressant d'examiner l'architecture des applications Java EE? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, étudier le cycle de développement et de déploiement d'une application Java EE est intéressant lui-même parce que Java EE est une plateforme massivement utilisée pour le développement d'applications d'entreprise et pour leur déploiement sur le cloud. Déployer dans le cloud en mode PaaS est une technique qui est maintenant entrée dans les mœurs au niveau des applications d'entreprise, donc il n'y a plus vraiment besoin d'argumenter sur ce point. Java EE est une architecture qui est conçue pour le cloud, conçue pour le PaaS, comme nous allons le voir. Qu'appelons-nous une application Java EE simple? Comme je l'ai déjà dit, l'objet de ce cours n'est pas de présenter tous les aspects de la plateforme Java EE en détail, mais plutôt de se concentrer sur les principaux modules d'une application Java EE. Java EE n'est pas l'objet de ce cours. L'objet de ce cours est de présenter vraiment Java EE dans ses grandes lignes, dans ses traits forts et dans ses aspects peut-être les plus intéressants. Pourquoi avoir choisi Azure comme cible de notre déploiement en mode PaaS? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, Azure est une des rares solutions PaaS à être soutenue par un éditeur majeur. Il y a de nombreux acteurs qui proposent actuellement des solutions d'hébergement PaaS sur le cloud. Certains de ces acteurs sont des startups et on peut se poser la question de la pérennité de ces hébergements, de la pérennité des sociétés qui les soutiennent. Azure est soutenu par Microsoft, société qui évidemment offre une pérennité d'une toute autre dimension. Azure est bien sûr hébergé sur l'infrastructure de Microsoft, sur les data centers de Microsoft. Donc là encore, on a des possibilités de monter en échelle qui sont à la mesure des data centers de Microsoft. Ensuite, Microsoft a passé un accord avec la société Azul System et propose dans ses solutions d'hébergement des JVM Azul. Alors les JVM Azul ne sont pas forcément très bien connus des développeurs Java. À cela, il y a une raison principale, c'est que ces JVM sont payantes. Il faut s'acquitter d'un droit de licence pour pouvoir les exploiter. Et de plus, quand on télécharge le JDK, on a une JVM gratuite qui est Hotspot et qui est elle-même tout à fait performante et tout à fait à même d'héberger nos applications. Pourquoi utiliser des JVM Azul? Pour des raisons de performance, les JVM Azul sont équipés d'un garbage collector particulier que Hotspot ne possède pas et qui présente éventuellement un certain nombre d'avantages par rapport à ceux d'Hotspot dans des cas applicatifs précis. Et enfin, on a un accord commercial entre Oracle qui supporte les développements de Java, de la plateforme Java et de Java EE, et Microsoft qui supporte le cloud Azure. Et cet accord stipule que les produits Oracle doivent être disponibles en solutions commercialement supportées sur le cloud Azure dans les 45 jours qui suivent la sortie de ces produits. Ce qui fait que Microsoft Azure a été la première solution de cloud à proposer le support commercial de Java 8. Et lorsque l'on regarde la liste des JVM qui sont supportés sur le cloud Azure, on se rend compte que les toutes dernières versions des JVM apparaissent effectivement très rapidement dans Azure. Donc toutes ces solutions font sans aucun doute d'Azure un des acteurs majeurs et très intéressant pour l'hébergement d'applications Java et d'applications Java EE en particulier. Quelle démarche va-t-on suivre? Comment ce cours est-il organisé? Il est organisé essentiellement en trois temps. Dans un premier temps, nous allons construire une application Java EE 7 en utilisant les outils de développement classiques que tous les développeurs Java connaissent. L'IDE que nous allons utiliser sera Eclipse, tout simplement. Cette application va se composer d'un module JPA pour le mapping objet relationnel et l'accès à la base de données relationnelle, qui sera MySQL sur notre poste de développement et SQL Server sur le déploiement Microsoft Azure. D'un deuxième module sous forme d'une couche de service EJB qui va gérer à proprement parler la façade d'accès aux données et transactionnelle. D'un module REST construit sur JAX-RS et qui va permettre d'accéder aux données via des interfaces REST simples. Et enfin, d'un module JSF, c'est-à-dire d'un accès aux données via des IHM web utilisables par des opérateurs humains. Et puis dans un deuxième temps, nous allons déployer cette application dans Azure et comme il s'agit d'une application Java EE 7, nous allons utiliser GlassFish 4.1 en l'occurrence pour le déploiement de notre application dans Azure. À l'heure actuelle, peu de serveurs d'application supportent Java EE 7. En fait, il n'y en a que deux qui sont GlassFish version 4 et Wildfly version 8, développé par Red Hat. Notre application va bien sûr s'adosser à une base de données relationnelle, elle-même également hébergée dans Azure, qui sera en fait une base SQL Server. Et dans un troisième temps, nous allons développer un module supplémentaire de notre application Java EE pour stocker des images. Ces images représentent des ressources statiques de notre application. Les stocker dans une base de données relationnelle n'est probablement pas la meilleure des idées. Nous allons donc présenter la problématique du stockage de données statiques dans le cloud, dans le cadre d'applications hébergées dans le cloud, et utiliser le mode de stockage en blob proposé par Azure. Ce module d'upload d'images sera donc intégré à notre application Java EE. Il va nous permettre de présenter le stockage en blob d'une part, et également la construction d'applications sur CDI, qui est ce module d'injection de dépendance de la plateforme Java EE et autour duquel s'articulent nombre de modules de Java EE. Enfin, dernier point de ce préambule, à qui ce cours s'adresse-t-il? Qui êtes-vous? Que devez-vous connaître afin de l'appréhender dans les meilleures conditions? Tout d'abord, il s'agit du développement d'une application Java EE, donc vous êtes un développeur Java avec éventuellement des notions de plateforme Java EE qui ne sont pas nécessaires mais qui vont tout de même vous aider. Java EE utilise massivement les annotations, donc il faut que vous soyez familier avec ces éléments du développement Java. Si vous avez déjà des notions de cloud, d'infrastructure as a service ou de plateforme as a service, cela vous aidera également car nous n'allons pas détailler ces choses-là précisément. Nous allons plutôt nous appuyer sur des notions qui sont éventuellement déjà connues. Voilà, j'en ai terminé avec ce préambule, avec cette introduction. Place maintenant au cours et commençons par construire notre application Java EE7.